Bonjour à tous. Comment commencer autrement qu'en remerciant Vinciane pour cette invitation qui me donne la possibilité de partager avec vous une série de réflexions sur le polythéisme de la Grèce antique, tout en les conjuguant au thème de son séminaire, séminaire qu'elle a entendu consacrer cette année à l'architecture, pour ainsi dire, du monde suprahumain des Grecs. Dieu, Daimones, héros. Je ne traiterai pas de ces derniers, mais il sera bien question de Dieu et de Daimones dans le dossier documentaire que je vais commenter avec vous. Un dossier plutôt homogène, majoritairement composé de poésie lyrico-mélique, d'époque archaïque et classique, où ces deux catégories sont indissociables, mais j'y reviendrai. Avant d'aborder ces poèmes, permettez-moi de clarifier, par quelques précisions d'ordre méthodologique, l'intitulé que j'ai proposé pour cette présentation, des réseaux des puissances en action, la poésie hellénique à l'épreuve du polythéisme. En effet, si nous voulons essayer de comprendre ce type de langage qu'est le polythéisme, il est indispensable de prendre en compte les relations qui se tissent entre puissances divines. Le temps est venu de tirer toutes les conséquences d'une approche du polythéisme qui privilégie enfin cette dimension relationnelle et qui en envisage la syntaxe en ce qu'elle a de dynamique et de conjoncturel. C'est le sens de ma recherche et de ma démarche, tournée non seulement vers la religion grecque, mais plus spécifiquement, comme Vinciane l'a rappelé tout à l'heure, vers le polythéisme qui la caractérise, étudiée à la fois dans sa dimension quantitative, la pluralité des dieux, et dans sa dimension qualitative, le relationnel, les configurations, bref, le polythéisme en tant que langage. Actuellement, dans mes séminaires à l'EPHE, comme certains d'entre vous le savent, je me propose de contribuer à cet effort de compréhension en interrogeant quelques aspects de la configuration de la souveraineté divine en Grèce ancienne, à savoir ces relations récurrentes entre divinités qui expriment ensemble, sous l'angle du pluriel et du relationnel, une certaine représentation du pouvoir souverain et de sa répartition. Avec vous aujourd'hui, j'ai l'intention d'interroger les configurations divines à l'œuvre dans un petit corpus de textes méliques et hymniques qui va du Brother's Poem de Sappho à l'hymne de Palaïcastro, en mettant en valeur la manière dont les poètes articulent entre elles les puissances mobilisées. Nous verrons, chemin faisant, qu'est-ce que ce dossier a à nous apprendre quant au vocabulaire hémique du monde suprahumain, Theoi et Daimones, et aux classifications éthiques qui distinguent, entre autres, Dieu majeur, Dieu mineur et personnification divine, avec des trois gros points d'interrogation. Mais commençons par Sappho et précisément par ce nouveau poème récemment découvert, appelé conventionnellement Brother's Poem, que vous trouverez au numéro 1 de votre exemplier, que je vous lis dans une traduction fort provisoire, que je suis toute prête à discuter et à corriger avec vous. Mais toi, tu continues de répéter que Caraxos arrive avec son navire bien chargé. Cela, je crois, seulement Zeus et tous les autres dieux le savent. Ce n'est pas à toi d'y penser. Tu dois plutôt m'envoyer et me presser à prier intensément, Héra reine, que Caraxos rentre enfin ici avec son navire tout entier et qu'il nous trouve en bonne santé. Pour tout le reste, c'est vers les divinités qu'il faut se tourner, car après de fortes tempêtes, soudainement arrive le beau temps. Ce que Zeus, roi de l'Olympe, veut bien qu'une divinité les détourne enfin de leurs troubles, ceux-là sont bienheureux et prospères. Et nous, si l'Arikos relevait sa tête et qu'il devenait finalement un homme, alors oui, nous serions soudainement délivrés d'un grand souci. Pour quelqu'un comme moi qui travaille sur le polythéisme, ce poème est un don du ciel. Il est donc question d'Héra, et Héra joue un rôle important. C'est cette déesse qui est directement concernée par l'acte rituel évoqué, un acte ressenti comme potentiellement résolutoire et donc nécessaire. Mais attention, Héra n'est pas seule. Pour comprendre, pour saisir pleinement la dimension religieuse de ce poème, nous devons suivre de près les articulations entre puissances divines qui en structurent les énoncés. Il faut d'abord prendre en compte le rôle de Zeus, ce qui est fondamental, et surtout la relation qui se noue entre Zeus et Héra, relation soulignée par les épithètes parallèles qui leur sont attribuées. Héra, reine, Basilean d'un côté, Zeus, Basileus Olympus, roi de l'Olympe de l'autre. La relation qui se noue entre ces deux divinités dans le poème n'est pas qu'un reflet du mythe panhellénique qui place ce couple au sommet du Panthéon, mais c'est une réalité historique dans l'île de Sapho, une réalité enracinée dans la pratique culturelle des lesbiens qui honorait Zeus aux côtés d'Héra dans un sanctuaire fédéral situé au centre même de l'île. Mais il y a plus. Le poème convoque en effet, comme vous pouvez le voir, une série de puissances divines, en les reliant entre elles dans un jeu relationnel dont il faut cerner de près tous les enjeux. Dans ce réseau, une place est assignée aussi au Dieu tous, sympanthes theoi, au vers 7, c'est-à-dire au monde divin au pluriel et considéré comme une totalité. Une place est attribuée également au daimones, vers 14, en pluriel divin générique, et à une figure singulière, au vers 18, un daimon, qui, suivant la boulée de Zeus, peut venir changer soudainement le destin des hommes mortels. Si j'ai signalé par les italiques les traductions de daimon et cette daimon par divinité au pluriel et au singulier, ce que, tout simplement, je n'ai pas trouvé dans la langue française un terme analogue à l'italien numi, nume, qui m'aurait permis de mieux différencier dans la traduction Theos et Daimon tout en les rapportant à la classe des êtres divins. En ce qui concerne les dieux tous, il est important de remarquer que Sappho attribue à ses sympanthes theoi un rôle à côté de Zeus. Il ne s'agit pas là de pure rhétorique, d'une référence accessoire. Pour résumer, dans ce poème, une configuration de puissance divine est mobilisée et elles sont pour la précision et dans l'heure et dans l'ordre, Zeus et les dieux tous, Héra reine, les daimones, Zeus roi de l'Olympe et Andaimon. Surtout, la construction même de l'argumentation du poème est indissociable, comme nous allons le voir, des relations que l'auteur tisse plus ou moins explicitement entre ces entités divines. La parole, la volonté, la connaissance des êtres humains, dit-elle en substance, sont fort limitées et ne sont pas en mesure de déterminer certains événements. Dans le cas spécifique, le retour de Caraxos avec le navire plein. Seulement, Zeus et les dieux tous ont cette connaissance et partant ce pouvoir d'agir sur le réel, d'en influencer la direction. La seule action efficace pour les êtres humains concernés est alors de l'ordre du rituel, qui leur permet de communiquer avec les dieux, de les appeler à l'aide et de les honorer de manière à susciter leur bienveillance et obtenir l'aide demandée. Pour eux, la seule action efficace est la parole rituelle, mais une parole qu'il faut adresser dans les formes rituelles de la supplication, non pas attention aux dieux tous, ni même à Zeus directement, mais à une autre divinité. Une divinité précise, choisie dans l'ensemble des dieux, Héra. La déesse, la reine, est ici reconnue comme le référent divin adéquat auquel adresser une supplication en bonne et due forme pour en obtenir l'aide, une aide indispensable qui ne porte pas sur l'obtention d'un bonheur total, mais sur un dossier précis concernant, dans le cas spécifique, le retour de Caraxos et la recomposition de la famille, car Caraxos étant censé être le frère de Sappho. Même dans le fragment 17, toujours de Sappho, il est question d'Héra et des divinités qui sont à ses côtés, Zeus et Dionysos. C'est le numéro 2 de l'exemplier. Il s'agit du même groupement divin que nous retrouvons également dans le fragment 129 d'Alcée. C'est le numéro 3 de l'exemplier, Alcée, un autre poète qui vient de l'île de Sappho et qui est contemporain de cette poétesse. Et dans un poème comme dans l'autre, que ce soit Sappho ou Alcée qui prennent la parole, c'est à Héra qu'ils s'adressent directement. C'est elle la destinataire de leur parole, c'est avec elle qu'ils dialoguent à la deuxième personne. C'est à mes yeux une donnée extrêmement significative qui permet de supposer que c'est avec elle que ces deux poètes de Lesbos entretiennent un rapport privilégié, inscrit dans une tradition locale et sans doute également dans la réalité du culte. Mais revenons au Brothers Poem. Si cette Héra est l'interlocuteur immédiat pour une supplication bien précise, en tant que reine, elle est aussi associée à Zeus, le roi olympien, le dieu dont la volonté peut renverser une situation, modifier le cours des choses, mettre un terme au pono iopen qui accable la vie d'un individu. En effet, dans la seconde partie du poème, la persona loquens, ou cantans, introduit de nouveau une référence au monde divin en général, les daimones, la pluralité des puissances divines, agissantes et invisibles, qui peuvent modifier le cours des événements et auxquels il faut se remettre pour tout ce qui ne relève pas de la demande précise adressée à Héra. De cet ensemble, on dirait que sont extraits Zeus d'abord, singularisé dans son autorité souveraine, et avec le roi de l'Olympe, un daimon spécifique, singulier, que le roi des dieux peut envoyer aux mortels afin de les sortir contre toute attente d'un destin malheureux, d'une situation difficile. Et voilà comment, après la tempête, soudainement revient le beau temps. Cette image, introduite à propos des daimones, revient hors de métaphore à la fin de la strophe suivante pour exprimer l'action combinée de la boulée de Zeus et du daimon qui coopèrent pour changer soudainement en mieux le destin des hommes et les sortir des peines. Il y a donc une différence entre Héra, à qui on peut et même à qui on doit s'adresser directement, et Zeus, dont la boulée n'est pas accessible, n'est pas à la portée des pauvres mortels. Le poème construit cette différence, mais construit aussi le couple qu'ils forment, notamment à travers les épithètes parallèles qui leur sont attribuées. Ils sont le roi et la reine, le couple souverain est là. Et ils remplissent sans doute des rôles complémentaires, comme si la faveur de la reine était un premier pas nécessaire en vue d'obtenir de manière immédiate, indirecte, la faveur du roi divin. La dynamique relationnelle qui est ici à l'œuvre peut être utilement comparée à la dynamique qu'on peut retrouver, par exemple, dans le second oracle de la Pythie aux Athéniens à la veille de la bataille de Salamine. C'est Hérodote au livre 7 qui le raconte. Si les Athéniens ont obtenu un second oracle plus favorable, c'est selon les paroles de la Pythie, qu'Athéna a prié Zeus pour ses citoyens. Autrement dit, la déesse est arrivée à obtenir de son père une possibilité de salut qui n'existait pas auparavant. De manière analogue, dans le Brothers Poem aussi, Zeus se présente comme la figure de synthèse du vouloir divin et Héra comme la divinité qui lui est la plus proche et qui fonctionne en tant qu'intermédiaire entre la communauté humaine qui l'honore, les gens de Lesbos, la persona loquens et la société des dieux. Comme dans la relation ascendante du bas vers le haut, il faut passer à travers un intermédiaire approprié pour obtenir la bienveillance des dieux, dans le cas précis, celle d'Héra. Ainsi, la manifestation descendante du haut vers le bas de cette bienveillance semble se réaliser à travers un autre intermédiaire divin, dans le cas précis, un daimon, envoyé par Zeus. En ce qui concerne ce daimon, mis à part le problème textuel sur lequel nous pourrons revenir si vous le souhaitez dans la discussion, il a été identifié tantôt avec Dionysos, par analogie avec la triade lesbienne honorée dans le sanctuaire fédéral, tantôt avec les Dioscures, donc avec deux figures divines, ou bien on en a signalé le rôle de divinité mineure aux ordres de Zeus. Pour ma part, je ne crois pas qu'il soit utile de s'interroger sur son identité et je pense aussi qu'il ne faut pas différencier ce daimon des daimones mentionnés quelques vers auparavant. Il est un fait que l'envoi d'un dieu en aide aux mortels est une action typique de Zeus, le dieu souverain qui très rarement intervient de manière directe, mais qui le fait le plus souvent à travers une autre divinité à laquelle il confie la tâche de diriger les événements là où sa boulée veut les conduire. Les poèmes homériques offrent de nombreux exemples de cette dynamique. Il suffit de penser à Athéna, qui dans l'Iliade rappelle de manière ironique toutes les fois que Zeus l'a envoyé en courant du haut du ciel porter secours à Héraclès. Pour en finir sur ce point, il me semble que le poème de Sappho ne peut pas être compris si on ne fait pas d'attention à la dynamique relationnelle, tantôt explicite, tantôt implicite, entre les divinités évoquées. Autrement dit, si on ne prend pas au sérieux l'arrière-plan polythéiste qui structure l'argument même du discours. Pour passer à un autre poème et à une autre configuration de puissance divine, je vous invite à relire les vers de la Théogonie d'Hésiode que vous trouvez au numéro 4 de votre exemplaire. Zeus s'unit avec Thémis, puissance qui traduit la normativité et l'exigence d'équilibre caractérisant le cosmos de Zeus, Et c'est de cette union que naissent les moires, les moirei, déesses de la part plutôt que du destin, et les orei, les heures. Leur thionyme transparent, Eunomia et Irénée, Dike, illustre et explicite les compétences civiques et politiques attribuées à ces puissances divines, engendrées précisément par la rencontre de l'autorité souveraine de Zeus avec la puissance normative de Thémis. Pandare aussi, au début de l'Olympique 13, au numéro 5 de l'exemplier, fait appel à l'articulation généalogique entre les orei et Thémis pour exprimer le bien-être et la prospérité de la cité de Corinthe. Bacchylide adapte de son côté cette configuration de puissance au contexte du discours que Ménélas adresse aux Troyens dans le Dithyrambe 15, le numéro 6 de l'exemplier. Sous le regard de Zeus, les hommes sont appelés à prendre leurs responsabilités et donc à respecter Diké qu'accompagnent Eunomia et Thémis. Ce thème est décliné également dans un hymne ou prière aux moires, c'est le numéro 7 de l'exemplier, que Bora attribuait à Simonide sur la base, entre autres, de similitudes métriques avec le poème de Bacchylide. Et c'est précisément cet hymne, ou plutôt cette prière, que j'aimerais relire avec vous. Écoutez, moires, vous qui, parmi les dieux, êtes assises au plus près du trône de Zeus et qui tissez avec des navettes d'inflexible acier des dessins innombrables et inévitables pour des plans de toutes sortes. Aïssa, Clotho et Lachésis, filles aux beaux bras de nuit, écoutez nos prières. Vous, uraniennes, hectoniennes, ô de très redoutable puissance, envoyez-nous Eunomia au sein de rose, ainsi que ses sœurs aux robes resplendissantes, Diké et Irénée couronnée. Faites que notre cité oublie les malheurs qui l'accablent. La persona loquens s'adresse ici aux moires, qui sont qualifiés par leur lien privilégié avec le dieu souverain, et il en exalte les compétences dans la détermination et le tissage des vicissitudes humaines. Et c'est précisément à ces puissances divines qu'on adresse une prière et qu'on demande de l'aide, afin qu'une cité tout entière arrive à oublier ses maux et à reprendre le cours de son existence. L'aide demandée n'est pas toutefois générique, mais spécifique, et elle prend spécifiquement les noms et les formes des orei, des heures. Et ce sont les mêmes orei dont Hésiode avait fait les filles de Zeus et les sœurs des moirei, Eunomia et Irénée Diké. Et ce sont donc ces divinités-là que les moires de ce poème sont censés déployer, mobiliser en faveur de la cité en souffrance. Vous l'aurez compris, je pense que l'envoi, le déploiement de ces puissances divines peut être utilement comparé à l'articulation que nous avons vue à l'œuvre dans le Brothers Poem. Il me semble que la prière aux moires illustre la possibilité que, non pas un seul daimon cette fois-ci, mais plusieurs daimones soient envoyés secourir les hommes en difficulté et mettre un terme à leur peine. Certes, dans ce cas, l'autorité qui envoie n'est pas Zeus directement. D'autre part, il n'est pas anodin non plus, à mon avis, que le poème s'ouvre précisément par l'image des moires qui sont assises au plus près du dieu souverain, ce qui est une manière d'exalter le lien étroit qu'entretiennent avec Zeus les déesses qui président à la moira, à la part qui revient à chacun. Il ne faut pas oublier non plus que Zeus reçoit en Grèce le titre de Moiragetes. C'est lui qui conduit les moires, c'est leur leader, pour s'en tenir à la lettre du verbe grec agein. Et les moires peuvent parfois se présenter comme des expansions fonctionnelles du dieu. Cela ne signifie pas que la qualification de daimones qui leur est attribuée dans le poème indiquerait ici un quelconque statut mineur ou intermédiaire de ces puissances placées aux marges du monde des Olympiens. C'est d'ailleurs en tant que daimones que les moires sont invités à envoyer d'autres divinités en aide aux êtres humains en difficulté. Le fait que cette prière leur soit adressée démontre aussi qu'on ne peut pas distinguer Théoi et Daimones sur la base du fait que ces derniers ne seraient pas destinataires d'adresses directes de la part des hommes. Une fois de plus, ce qu'il m'intéresse aujourd'hui de mettre en évidence dans ce document est l'architecture polythéiste du poème. Même dans ce cas, en effet, tout comme dans le poème de Sappho, la structure logique et argumentative elle-même est indissociable de la trame de relations entre les différentes puissances divines qui sont évoquées ou appelées en cause. Pour mieux cerner ce point fondamental, il peut être utile de nous poser la question suivante. Pourquoi la prière n'est-elle pas adressée directement aux oreilles, aux heures, étant donné que c'est de la présence active de celle-ci que dépendent la paix, l'ordre, bref, la prospérité de la cité en question? Eh bien non. La prière est adressée en première instance à un autre groupement divin, les Moires, dont on exalte le lien d'un côté avec Zeus et de l'autre avec les heures, les oreilles, autrement dit, qui sont prises dans une configuration divine entre Zeus d'un côté et les oreilles de l'autre. Or, la multiplication des agents divins impliqués, particulièrement clair dans le cas de cette prière, n'est pas un élément accessoire, décoratif, mais la voie maîtresse à travers laquelle trouve expression la dimension polythéiste de la religion grecque en général et de ce poème en particulier. En outre, les relations entre ces deux ensembles divins, les Moires et les Heures, ne sont pas le fruit du hasard. Et pour les expliquer, il ne suffit pas de faire une note bas de page avec un renvoi au vers de la Théogonie d'Hésiode. Le renvoi érudit reste fin lui-même. Il ne permet pas au lecteur de comprendre la raison de cette association. Quand Hésiode fait des Moires et des Heures, deux groupes de puissances sœurs issues de l'union de Zeus avec la divine Thémis, il dessine une généalogie parlante, chargée de sens. Cette relation généalogique traduit l'une des articulations de la pensée grecque sur le monde et les forces qui y habitent, sur la vie et les puissances en jeu dans son déroulement. Et elle traduit précisément le rapport, si vous voulez, sororal, entre d'un côté les puissances divines qui sont censées distribuer aux hommes la part de bien et de mal qui leur échoue, et de l'autre les puissances qui expriment, sous ces divers aspects, l'aura, le moment propice. Et bien entendu, il est un peu plus significatif que les unes et les autres viennent au monde en conséquence de l'union entre la puissance souveraine de Zeus et la puissance normative de Thémis. Il faut rappeler à ce propos, c'est une démonstration qui était faite par ailleurs, que les diverses compétences assignées aux Moires dans la pensée religieuse de la Grèce ancienne difficilement peuvent être comprises si on veut leur appliquer l'étiquette synthétique de déesse du destin, de la destinée. Il y aurait beaucoup à dire sur la difficulté d'appliquer à la Grèce ancienne cette notion de destin qui est plutôt la nôtre, qui risque d'être fourvoyante par le déterminisme qui la caractérise. Or, parmi leurs multiples compétences, il faut dire que les Moires fonctionnent comme des puissances de régulation. Pour vous faire un exemple, Apollon, dans l'Iliade, et c'est votre texte numéro 8 sur l'exemplier, pour critiquer le comportement d'Achille face à la mort de Patrocle, rappelle que les Moires ont doté les êtres humains d'un thumos capable d'endurer les maux. Ces déesses veillent donc au respect des limites, de la mesure, qu'il ne faut pas dépasser, même pas dans la douleur pour la perte d'un proche. Les dieux sont aussi tenus de respecter ces limites. Pausanias, et c'est le numéro 9, nous transmet un récit suivant lequel Zeus charge précisément les Moires de persuader Déméter à mettre un terme à son chagrin pour la perte de sa fille. La déesse aussi est donc tenue de respecter certaines limites dans la douleur pour amener dans l'univers cet ordre que son chagrin et sa rancune avaient bouleversé. Vous penserez que je me suis éloignée de mon propos. Pas tant que ça, à bien voir. En subordonnant l'arrivée des oreilles, des heures dans la cité en souffrance à l'action favorable des moirei, des moires, l'auteur de cette prière fait appel précisément à ce type de compétences régulatrices, étant donné qu'il demande explicitement à ces déesses de déployer envers la cité leur puissance d'oubli, en faisant en sorte que la communauté blessée oublie ses maux et réussisse enfin à tourner la page. Parce que seulement l'oubli des maux, pour reprendre une expression chère à Nicole Loro, peut permettre que la cité retrouve son bon fonctionnement et puisse donc fleurir à nouveau. L'action des Moires est donc un préliminaire indispensable au déploiement des heures. Seulement à la lumière des compétences respectives de ces deux groupes divins, à la fois distinctes et associées entre elles, Nous pouvons comprendre la structure de ce poème, une structure dont la logique est constituée par la manière grecque dont s'articulent ensemble, en faisant configuration, les puissances divines impliquées. La présence des oreilles en lien avec l'harmonie civique est, selon Bora, un, et je cite, communis locus in choral poetry dealt with the fortunes of the cities. Fin de citation. Moi, ce que je vois comme communis locus est ce type d'interprétation en odeur d'allégorie. Il ne faut pas considérer Thémis, les moires, les heures comme des figures rhétoriques ou de simples personnifications de notions abstraites, mais comme de véritables puissances divines. En tant que telles, elles sont actives dans le monde, elles font partie du réel, elles sont des composantes essentielles de l'existant pour un poète qui vit, pense et compose à l'intérieur d'une culture polythéiste comme celle de la Grèce ancienne. En conséquence, la mauvaise habitude de les réduire à des allégories, souvent habilement maquillées derrière le recours à la formule « personnification de notions abstraites », tout comme la tendance à négliger les dynamiques relationnelles entre les divinités qui structurent un poème, tout cela comporte, avec la perte de la dimension proprement polythéiste, une partielle ou mauvaise compréhension du texte lui-même. À ce propos, vous vous donnez encore un exemple, venons-en à l'hymne de Palaïcastro, c'est le numéro 10 sur l'exemplier. L'hymne en question a fait l'objet de très nombreux commentaires, dont celui de Jane Harrison par exemple, et je ne vais pas le reprendre dans le détail, je laisse à Vinciane le soin de le faire avec vous pendant ses cours. Retrouvé dans le sanctuaire de Zeus Dictaios, dans la partie orientale de l'île de Crète, il serait daté entre le 4e et 3e siècle avant notre ère, mais il aurait été gravé sur pierre bien plus tard, sans doute au 2e siècle de notre ère. Plutôt récemment, il a fait l'objet d'une nouvelle lecture dans laquelle disparaît le très grand Kouros et avec lui aussi l'Eniautos Daimon, tant aimé par toute une génération d'anthropologues et d'historiens de la religion. Il s'agirait plus simplement d'une invocation à Zeus, fils de Cronos, dont ce chant choral en maître lyrique exalte la puissance et sollicite l'arrivée. Je vais lire avec vous quelques passages de ce texte dans la traduction qu'en a faite Pierre Brûlé en 2012. Il s'articule dans un refrain et plusieurs strophes. Le refrain est le suivant. « Ô le plus grand des dieux, fils de Cronos, salut !» Tout puissant maître du Ganos, tu es arrivé à la tête des dieux. Viens au dictée au retour de l'année et réjouis-toi de notre chant. Puis une strophe, nous le tissons pour toi de nos lyres et de nos aules mêlées et nous chantons, ayant pris place autour de ton autel bien dressé. À nouveau le refrain, car c'est ici que tes gardiens porteurs de boucliers te reçurent de Réa en femme immortelle et que, battant le sol de leurs pieds, ils te cachèrent. Suit à nouveau le refrain. Comme vous voyez, la strophe suivante, il en reste très peu. La strophe suivante, encore, on ne sait pas, au début, peut-être, l'éditeur du texte du début du siècle dernier, Gilbert Murray, plaçait là une référence aux oreilles, justement, croissent chaque année, et justice tient les mortels en son pouvoir. Épée qui aime la prospérité gouverne toutes les créatures. À nouveau le refrain. Mais, roi, bondis sur nos jaravins et bondis sur nos troupeaux à la belle toison et sur nos champs de récolte bondis et sur notre maison bien gouvernée. Je vous répète le refrain pour la dernière fois. Ô le plus grand des dieux, fils de Cronos, salut, tout puissant maître du Ganos, tu es arrivé à la tête des dieux. Viens au dictée au retour de l'année et réjouis-toi de notre chant. Bondis encore sur nos cités, bondis sur nos vaisseaux hauturiers et bondis sur nos nouveaux citoyens, bondis sur la belle, célèbre Thémis. La donnée rituelle et locale se conjuguant avec une tradition partagée, l'arrivée du dieu est présentée, dans les vers du refrain, comme une actualisation du mythe de la naissance et en étroite liaison avec le rôle de leader que Zeus a obtenu parmi les dieux. Ici, les daimones. Bref, même dans ce cas, Zeus n'est pas seul, et sa position est définie en rapport aux relations généalogiques et hiérarchiques qui le relient aux autres dieux. Et même dans ce cas, le déploiement de l'action divine envers la communauté, qui est l'objet de la prière, prend les formes et le nom et les noms de Diké et Irénée, deux des oreilles de la tradition hésiodique. À ce propos, vous voyez, voilà ce que je vous disais, Murray proposait d'intégrer le théonyme Horaï au vers 19 de l'hymne. Dans le vœu formulé par le cœur, l'arrivée de Zeus devrait réjaillir sur tous les aspects de la réalité et de la vie, susceptibles de fleurir et de refleurir périodiquement en vertu de la manifestation d'une puissance souveraine capable de garantir l'ordre et la prospérité. L'action bénéfique de Zeus se trouve son expansion dans l'action des déesses Diké et Irénée, et elle déferle telle une vague pour investir les champs cultivés, les troupeaux, la production du vin, la vie domestique. Même la dimension civique et institutionnelle est impliquée, puisque Zeus est appelé à investir de sa puissance les cités, au pluriel, nos cités, les nouveaux citoyens et les bateaux qui sillonnent la mer. Il est intéressant de remarquer la place réservée dans ce cadre institutionnel à la prospérité du commerce maritime. J'attire enfin votre attention sur le fait que Zeus, ici, est également invité à s'unir avec la belle ou la célèbre Thémis. Or, on peut entendre ce vers de plusieurs manières, suivant si l'on considère Thémis théonyme ou nom commun. Si nous lui attribuons une majuscule ou une minuscule. Dans le premier cas, nous identifions cette Thémis avec la déesse homonyme qui est la mère des Horaï chez Hésiode. C'est avec cette déesse que Zeus se serait invité à s'unir dans une perspective généalogique et théogonique vers laquelle pointe également la présence des deux Horaï quelques vers auparavant, en association avec le dieu souverain, ce Zeus dont les déesses prolongent et précisent l'activité bénéfique. Dans le second cas, il faudrait entendre Thémis non pas comme un théonyme, mais comme un nom commun, ayant le sens de « conseil ». En termes que la liste précédente, les cités, les citoyens, etc., et certains parallèles numériques aussi, permettent de traduire de cette manière, comme s'il s'agissait de la dénomination locale de l'Assemblée. Farley et Bremer, mais aussi Rudard, préfèrent cette solution. Dans ce cas, le vœu formulé par le cœur est que l'action bénéfique de Zeus se déploie sur les cités, les citoyens, et qu'elle pénètre les institutions civiques elles-mêmes, à savoir l'Assemblée, ou même que son action puisse être bénéfique pour le rassemblement présent. Thémis pourrait aussi signifier plus simplement « ordre ». Après y avoir réfléchi, j'ai dû me résigner au fait que ces solutions sont toutes plausibles, de sorte qu'il est difficile d'en exclure catégoriquement une aux dépens de l'autre. Et je me suis demandé si cette impossibilité de choisir n'avait pas une bonne raison d'être. Je crois en effet qu'il faudrait envisager sérieusement la possibilité que nous sommes là face à un jeu polysémique et que ces directrices de sens, au lieu de s'exclure l'une l'autre, puissent fonctionner à l'unisson. La belle ou célèbre Thémis de cet hymne est sans doute la déesse qui, unie à Zeus, donne naissance aux Horaï, en relation avec une tradition largement partagée. Mais on ne peut exclure que ce nom renvoie également à la notion d'ordre et éventuellement à une donnée concrète. Des Horaï hésiodiques, seulement Eunomia serait absente, même si à bien voir, l'Eunomia est garantie en arrière-plan précisément par la présence des autres Horaï et du couple représenté par Zeus et Thémis, à la fois déesse à part entière et instance de l'ordre communautaire. Pour rendre toutefois à Eunomia aussi l'honneur latimé qui lui revient, permettez-moi de conclure cette série d'exemples en évoquant non plus que brièvement le poème de Solon qui porte ce nom. Et c'est le numéro 11, le dernier texte sur votre exemplier. Dans ce poème, en effet, le couple antithétique d'Eunomia et Eunomia se prête tout particulièrement à être interprété de manière allégorique, en tant que notions abstraites personnifiées à des fins rhétoriques. Mais le prix à payer est là aussi le risque de perdre la dimension proprement religieuse du discours. Si en revanche, nous choisissons de lire ce poème à la lumière de la culture polythéiste à laquelle il appartient, nous sommes obligés d'admettre la possibilité que le poète ait construit son discours autour du lien indissoluble entre des divinités au nom transparent, tels Eunomia et Dike, avec majuscule, et les effets concrets de leur action divine, Eunomia et Dike, avec minuscule. La construction du discours privilégie, il est vrai, la description des maux qui affligent ou menacent la cité, mais elle suggère en même temps les forces bénéfiques qui peuvent neutraliser leur action nuisible. Et en ce qui concerne les forces positives, c'est à la sphère des oreilles qu'elles semblent reconduire. Eunomia et Dike sont explicitement appelées en cause, alors qu'Eirene ne l'est qu'implicitement à travers l'allusion à Polémos et à la guerre intestine que Solon, le poète, entend conjurer. Mais la trame polythéiste du poème de Solon ne se limite pas à la configuration de ces puissances traditionnellement liées à l'heure, c'est le cas de dire, et malheur des cités des hommes. Pour saisir pleinement la complexe articulation de puissances qui le structure, en conférant au discours sa dimension proprement religieuse, il faut le reprendre à partir de l'incipit. Notre cité, dit Solon, il se réfère à Athènes bien évidemment, n'est pas destinée à être détruite, ou plus précisément, Zeus et les autres dieux sont tendanciellement favorables à Athènes, à qui, à sa cause, décidait à garantir sa pérennité. Ce sont les Athéniens, en revanche, qui œuvrent à la perte de la cité avec leur conduite irresponsable. L'idée sous-jacente, vous le voyez bien, est celle d'une co-agentivité, pour employer un terme à la mode, entre divinités et êtres humains dans la détermination des événements. Nous sommes plutôt loin, je crois, de ce déterminisme que nous évoque de manière automatique le terme et la catégorie de destin. Soyez rassurés, je ne veux pas reprendre aujourd'hui, à ce point de ma conférence, la vexata quaestio des relations entre Zeus, la moire et les moires. Ce que je tiens à souligner une fois de plus est la pluralité des puissances impliquées et la manière significative, chargée de sens, dont elles s'articulent. C'est que les dieux fonctionnent en groupe, en société, micro-société, macro-société. Et de cette société, Zeus est appelé à représenter comme une sorte de synthèse. Ainsi, la bienveillance divine envers la cité d'Athènes est ici exprimée par l'image de tous les dieux qui lui sont constamment favorables, en association avec la Dios Aisa, l'Aisa de Zeus, le dieu souverain qui sanctionne et actualise cette faveur constante. Je vous rappelle que Aisa, avec majuscule, est aussi le nom de l'une des Moirai, des Moires. C'est aussi le cas dans la prière que nous avons lue tout à l'heure. Moirai liée, tout comme les Orai, à la souveraineté de Zeus et à la sphère de Thémis. La formule Dios Aisa est plutôt commune, est plutôt courante, et certainement nous ne pouvons pas en déduire une allusion à la présence des Moirai, des Moires, dans le poème de Solon. D'autre part, il n'est pas anodin non plus que l'une des Moirai reçoive, dans la tradition grecque, un nom qui se trouve employé également pour dire le vouloir de Zeus, l'arrêt divin du souverain. Quoi qu'il en soit, le dieu souverain n'est pas seul, et sa volonté traduit en décision, mais en exécution, un accord plus général dont les dieux tous sont coprotagonistes. D'un côté donc, le poème de Solon illustre, tout comme le font à leur manière la prière aux Moires et l'hymne de Palaïcastro, la manière dont l'articulation entre Zeus, la sphère de Thémis, les Orai et les Moirai se reconfigure pour s'adapter à chaque fois à un contexte poétique et performatif spécifique. De l'autre côté, ce poème nous fournit encore un exemple de cette articulation fondamentale entre Zeus et les dieux tous que nous avions déjà eu l'occasion de voir en action en commentant le Borders Poem de Sappho. Dans l'ensemble de puissances appelées en cause par Sappho, il y avait, si vous vous rappelez, à côté de Zeus, les dieux tous, mais aussi le Daimon qui vient protéger les hommes de leur peine si Zeus le veut bien. Vous vous rappellerez aussi que, dans le Brothers Poem, le rôle d'interface avec le monde divin est assuré de manière ponctuelle, disons, par le Daimon, mais de manière plus stable au niveau de la communauté de Lesbos, par Héra, la déesse reine, qui fait couple avec Zeus roi, à l'intérieur et à l'extérieur du poème, qui était associé aux dieux également au niveau cultuel dans le sanctuaire fédéral des lesbiens. Vous devriez avoir compris à ce point quel est le dernier passage de mon raisonnement, la dernière étape de ce parcours à travers une série de poèmes qu'on peut relire en clé polythéiste et qui ont beaucoup à nous apprendre, je crois, sur la manière collégiale dont les Grecs concevaient la souveraineté divine et les déploiements de ses bienfaits. Le rôle que Sappho dans son poème et l'ensemble de l'île de Lesbos dans son quotidien attribue à Héra, l'épouse de Zeus, Solon et la cité d'Athènes l'attribuent à Athéna, la déesse Obrimopatre, la fille puissante d'un père puissant, qui protège de ses mains la cité qui tient d'elle son nom. Bref, ces deux déesses, caractérisées l'une comme l'autre par un rapport particulièrement étroit avec le roi des dieux, fonctionnent aussi en tant qu'intermédiaires privilégiés entre la puissance souveraine de Zeus et les communautés humaines dont elles défendent les intérêts qu'elles protègent tout particulièrement. Dans la perception du monde qui est celle de la Grèce polythéiste, plusieurs divinités sont appelées à intervenir dans la vie des hommes pour protéger une communauté ou une cité comme Héra et Athéna dans les exemples que nous avons vus ensemble, mais également pour sauver une famille en difficulté ou un individu. Surtout, et c'est en cela que consiste l'un des traits essentiels et moins reconnus du polythéisme, un dieu, même Zeus, dans le déploiement de sa bienveillance, n'est pas seul. Mais son action s'articule plus ou moins explicitement à la volonté des autres dieux. C'est sans doute à cette dynamique qu'on pourrait reporter les vers du Brothers Poem où il est question du daimon qui, suivant la volonté de Zeus, en vient à protéger les individus en difficulté et à renverser leur malheur en bonheur. Vous vous rappellerez aussi que quelques vers auparavant dans le poème de Sappho toujours, il était précisément question des daimons qui seuls peuvent ramener le beau temps après de fortes tempêtes. Les daimons, ici, Féoï, ailleurs, font groupe avec Zeus. Et c'est alors de la volonté concorde du dieu souverain et des dieux tous qu'émane l'envoi d'une aide appropriée capable de renverser le cours des choses. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne pense pas qu'il soit utile et pertinent d'identifier précisément le daimon dont il est question chez Sappho. Généralement parlant, il me paraît évident que son identité divine change avec le contexte, et spécifiquement parlant dans le cas précis du Brothers Poem, le discours me semble pointer moins l'identité du daimon que la dynamique elle-même, et c'est en cela que ce poème est un témoignage très précieux, car il me semble pointer explicitement la dynamique qui construit une aide divine appropriée et efficace, une dynamique qui traduit la lecture polythéiste du réel et des forces multiples et interconnectées qui le traversent. Et je vous remercie pour votre patience.